Mesdames, messieurs, ce que vous venez d'entendre a été dit en 1937, il y a donc un tiers de siècle. À cette époque précisément, les nations occidentales se livraient à une fabrication intensive d'armes de guerre toujours plus meurtrière. Souhaitait-elle une conflagration? C'est peu vraisemblable. Alors, pour quelle raison? Eh bien, elles espéraient en finir avec une grave crise économique qui s'éternisait. Une avalanche de progrès techniques avait permis de créer toujours plus de richesses avec toujours moins de travailleurs. Nous n'avons pas caché que sans une transformation de notre système économique et social, une seconde conflagration générale serait inévitable. Elle éclata 2 ans plus tard. Rappelons qu'en Allemagne, nation fortement industrialisée, la crise économique avait provoqué de graves désordres qui portaient Hitler au pouvoir, au cri de « exporter ou mourir ». Il déchira le traité de Versailles, reconstitua une armée puissante qui envahit bientôt la Pologne, puis la Hollande, la Belgique, enfin la France. Cette seconde guerre mondiale dura un peu plus de 5 années, au cours desquelles presque toutes les armées de la planète massacrèrent hommes, femmes, enfants et détruisirent toutes les richesses apportées de leur formidable artillerie. Après quoi, 2 petites bombes nucléaires clôturèrent ces hauts faits en supprimant à peu près complètement 2 villes japonaises et leurs habitants. Aujourd'hui, où en sommes-nous? L'abondance qui n'avait pu résister à 5 années de destruction massive est revenue dès que les moyens de production anéantis furent reconstruits. Et on ne tarda pas à se plaindre à nouveau de cette fâcheuse surproduction qui fait baisser les prix et évanouir les profits. Alors, sans se consulter le plus naturellement du monde, toutes les nations qui avaient pris part à la guerre imitèrent le chien de l'Évangile. Elles retournèrent à la fabrication de plus en plus massive d'armements et de plus en plus redoutables, et, oh ironie du sort, c'est l'Allemagne vaincue avec laquelle nous ne sommes qu'en état d'armistice qui possède aujourd'hui la plus puissante armée d'Europe occidentale. C'est que la politique des armements est si facile à justifier. N'est-il pas sage d'organiser notre défense contre l'agression de notre ennemi héréditaire et... on trouve toujours le moyen d'en changer opportunément. Pendant 100 ans, rappelez-vous, ce fut la perfide Albion, puis nos voisins les Allemands. Hier, c'était l'URSS, jusqu'au moment où nous espérons réaliser de fructueuses opérations commerciales avec cet immense pays. Aujourd'hui, l'ennemi héréditaire ne pourrait-il pas être la Chine, par exemple? Mais depuis qu'elle fabrique des bombes nucléaires? Quoi qu'il en soit, tant que nous aurons des marchands de canons, soyons sûrs de ne jamais manquer d'agresseurs en puissance. Il convient toutefois de ne pas oublier que la fabrication des armements présente d'immenses avantages. Elle permet non seulement de créer quelques emplois susceptibles de reclasser des travailleurs ayant perdu le leur, mais elle est hautement rentable. Elle se traduit par d'énormes commandes dont le financement est facile, l'État s'en chargeant presque toujours. Et les commandes intéressent directement ou indirectement toute l'industrie. Car ces commandes ont encore le prodigieux avantage de n'apporter rien à vendre sur les marchés déjà saturés. Mais s'il fallait écouler sur le marché des avions de bombardement, des chars blindés, des canons de tout calibre, des mitrailleuses, des missiles, etc., etc., mais toutes les usines qui en fabriquent seraient en faillite. Mais non, au contraire, ce sont les plus prospères. C'est que l'art de tuer hommes, femmes, enfants, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas, a fait des progrès prodigieux. Au napalm qui les brûle vivants est venu s'ajouter la guerre bactériologique, la guerre chimique, enfin la guerre nucléaire qui désintègre tout ce qui respire. Sachez qu'une seule bombe H, comme les Américains et les Soviétiques en possèdent des centaines, contiennent une puissance explosive supérieure à celle que tous les belligérants utilisèrent au cours des 5 années de la Deuxième Guerre mondiale. 8 bombes H, a calculé Jules Mock, suffisent pour détruire la France. Or, de ces bombaches, l'Angleterre en possède aussi, la Chine également, la France en aura bientôt, enfin, toutes les autres nations, grandes et petites, en désirent. Alors que le simple bon sens exige que toutes les nations devraient s'entendre pour les détruire. Mais, vous connaissez la fine réflexion de l'innocent du village, on ne s'en servira pas. On ne s'en est donc jamais servi sur Hiroshima et Nagasaki. Ce qui accrédite cette niaiserie, C'est qu'on s'empresse d'ajouter qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, aucun des belligérants ne fit usage de ces terribles nappes de gaz asphyxiant qui firent d'affreux ravages pendant la Première Guerre mondiale. C'est vrai. Mais uniquement parce qu'on n'en avait plus besoin. La Première Guerre mondiale fut en effet une guerre de position. Tout simplement parce qu'au bout de quelques mois, les belligérants avaient presque épuisé leur stock de munitions. Et nos brillants économistes annoncèrent même que les hostilités commencées au mois d'août se termineraient à la fin de l'année et que les combattants fêteraient la Noël chez eux. Pourquoi ? Parce que les nations en guerre manqueraient d'argent, lequel, on le sait, est le nerf de la guerre. Mais ces doctes personnages ignoraient qu'un État en mal d'argent n'hésite jamais à en fabriquer, pour la bonne raison qu'une nation moderne ne peut s'en passer. Alors, un simple décret transforma le franc or en franc papier, ce qui permit de produire massivement des canons, des munitions. Mais, en attendant ces canons et ces munitions, les armées creusèrent des tranchées pour s'y terrer. Et c'est pour les en déloger qu'on inventa les fameux gaz asphyxiants. La guerre de position n'en continua pas moins, et jusque devant Verdun. La Seconde Guerre mondiale, au contraire, fut une guerre de mouvement. Dès le début, les divisions de blindés allemandes tournèrent la ligne Maginot et la France fut submergée. Les combats se déplacèrent ensuite constamment, même hors d'Europe. Prétendre que les grandes puissances vont se mettre d'accord pour ne jamais utiliser de bombes nucléaires dans un nouveau conflit, c'est se moquer du monde. Peut-être commenceront-elles à ne se battre qu'avec les armes traditionnelles dites classiques, mais un moment viendra où l'un des belligérants aura le dessous. Alors suppose-t-on qu'il battra gentiment en retraite avec des bombes atomiques dans ses fourgons. Aux innocents qu'il croit. Opposons certaines des déclarations du général Eisenhower faites à la télévision et que le Figaro du 19 septembre 1966 a reproduites. Il révéla que les États-Unis étaient déjà décidés de se servir de leurs bombes atomiques au cours de la guerre de Corée, car il était inadmissible qu'elle durât 2 ou 3 ans de plus. Eisenhower avait donc donné l'ordre d'en laisser choir sur la Corée du Nord et éventuellement au-delà de la limite convenue du fleuve Yalu, c'est-à-dire sur le territoire de la Chine. Mais en profond stratège, il s'était empressé d'ajouter que ces bombes nucléaires n'auraient visé que des objectifs militaires, comme sur Hiroshima et Nagasaki sans doute. L'innocent du village affirme aussi que les guerres ayant toujours existé, elles existeront toujours. Qu'il y ait toujours eu des guerres, c'est chose vraie. Les hommes ayant toujours cru bon et nécessaire de massacrer leurs voisins. Mais, les guerres du passé ne furent que de cruels jeux d'enfants en comparaison des deux guerres mondiales du XXe siècle. De 1914 à 1945, donc en moins d'un tiers de siècle, nous avons vécu 2 conflagrations. Et voulez-vous que nous essayions d'en faire le bilan ? Ne serait-ce que pour savoir si vraiment elles peuvent continuer jusqu'à la fin des siècles. Rapportons-nous aux chiffres publiés par l'ONU, bien que, comme il l'avoue, ce sont des chiffres ronds et approximatifs. Militaires tués, 30 millions. Militaires invalides, 30 millions. Civils tués, 25 millions. Gens sans abri, 250 millions. L'ONU fournit aussi l'importance annuelle des dépenses militaires des 15 nations de l'OTAN. Bien que certaines dépenses militaires soient camouflées dans des budgets nationaux qui ne cessent de grossir. Ce sont les dépenses engagées en vue de la prochaine. Les chiffres qu'on vous fournit ne concernent malheureusement que l'année 1961. Mais vous pouvez être sûr qu'ils ont encore augmenté. Les 15 nations de l'OTAN dépense chaque jour 7 000 milliards d'anciens francs, ce qui fait 80 millions par seconde du jour et de la nuit, dimanche compris. Alors, de vous à nous, n'estimez-vous pas que ces sommes fabuleuses pourraient être plus intelligemment employées ? Quel gaspillage fou de travail et de matières premières ! Monsieur Jules Mock calculait que notre pauvre petite force de frappe nous coûte déjà autant que la construction de 500 000 logements. Mais il y a plus grave encore. C'est que la fabrication des armements est une industrie devenue tellement rentable qu'on exporte ses produits à gogo, même à de petites nations sous-développées. Et comme elles ne peuvent évidemment les payer, on les leur vend à crédit. Car c'est un moyen, ne souriez pas, d'améliorer la balance commerciale des grandes nations. Ignoriez-vous que ce transfert des ressources est un remède au déséquilibre économique ? Eh bien, ce fut expliqué en plein Conseil économique et social des Nations Unies au cours d'une de ses réunions à Genève. Nous avons donc appris, par l'Institut britannique d'études stratégiques, que la fourniture d'armes de guerre aux pays sous-développés s'élèvera en 10 ans à 10 milliards de dollars, 5 000 milliards d'anciens francs. Or, d'ores et déjà, ces pays en proie à la misère ont pu se procurer depuis 1946 45 000 avions militaires à réaction, 5 000 blindés, 224 navires de guerre, sans compter d'énormes quantités d'armes individuelles. Ni les engins téléguidés, dont le nombre serait, paraît-il, incontrôlable. Et à qui confie-t-on ces jouets d'enfants? Eh bien, naturellement, à des militaires. Alors, pourquoi s'étonner s'ils s'en servent soudain pour s'emparer du pouvoir grâce à un opportun petit coup d'État? Et quand un général factieux est à la tête d'une jeune nation, est-on sûr qu'il ne cherchera pas à noise à ses voisins, et ne serait-ce que pour se couvrir de gloire? Et cette guerre, d'abord localisée, ne se généralisera-t-elle pas au moment où nous nous y attendrions le moins? Mesdames, messieurs, nous en sommes là. Si nous ne changeons rien à notre système économique et social, nous courons inévitablement à la guerre nucléaire, qui n'épargne personne. Et cela au moment de l'histoire où les progrès scientifiques dépassent l'imagination. Car jamais, nous le répétons, les hommes ne furent capables de créer autant de richesses qu'aujourd'hui. Mais, c'est triste à avouer, ce sont les deux guerres mondiales qui ont fait accomplir des pas de géant à la productivité. Laquelle, comme vous le savez, consiste à produire toujours davantage avec toujours moins de labeur humain. À cet égard, Churchill en administra la preuve dans le fameux discours qu'il prononça à la Chambre des communes quelque temps après la fin de la Première Guerre mondiale. En voici un passage. Pendant la guerre, a-t-il dit, nous avons produit de tout en avalanche, et ce n'est pas seulement la production qui a augmenté, mais le rythme lui-même de la production, qu'il fallait constamment accélérer en raison des besoins des armées en campagne. Avions-nous plus de travailleurs dans les usines et dans les champs? Non, au contraire. Car il convenait de grossir continuellement les effectifs des combattants. Mais nous utilisions à plein l'outillage et les matières premières sans aucun souci du financement, les crédits ne nous étant pas mesurés. Quant à la production, elle était assurée, puisque nous la consommions, vu que nous la détruisions sur les champs de bataille. Et le Premier ministre ajoutait, selon toute apparence, il serait possible en temps de paix d'augmenter de la même manière la productivité en vue de fabriquer en avalanche des automobiles, des réfrigérateurs, des postes de radio, des postes de télévision, des baignoires, des machines à laver, etc., etc., sans oublier bien entendu tous les produits alimentaires. Et pourquoi ne le fait-on pas? Mais parce que cette production, il faudrait la vendre. Pour le moment, ajoutons qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la productivité a encore réalisé des progrès fantastiques. La main-d'œuvre devient quelquefois presque complètement inutile. Nous faisons ici allusion à la cybernétique, autrement dit, à la science de la machine pilote. Elle permet aujourd'hui de construire une chaîne de machines-outils travaillant en liaison avec la machine pilote. Celle-ci dirige leur activité, car, réagissant à leur action, elle les oblige d'accélérer ou de ralentir leur marche, d'augmenter ou de diminuer leur puissance selon des cadences auxquelles la machine pilote est obligée elle-même de se conformer. La main-d'œuvre devient ainsi à peu près inutile, se bornant à surveiller le bon fonctionnement de l'ensemble. Est-ce que cela ne devrait-il pas nous faire réfléchir? Tout ce que nous vous disons, Jean Rostand l'a résumé en déclarant publiquement: depuis 1945, l'humanité est en danger de mort. Auparavant, l'homme pouvait se détruire. Désormais, il peut détruire l'humanité. De quoi être fier, n'est-il pas vrai? 1945 fut, vous le savez, l'année où les Américains jetèrent deux pauvres petites bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Ces deux villes furent détruites aux trois quarts, ainsi que leurs habitants. Depuis lors, les grandes puissances fabriquent des bombes de plus en plus puissantes qu'elles expérimentent. Et ces explosions empoisonnent l'atmosphère et leurs retombées infecteront dangereusement nos descendants. Si nous en avons. Voilà la vérité. Or, dans le même moment, écoutez bien, Nous sommes en mesure de créer la prospérité sur la Terre en assurant le bien-être matériel de tous les hommes. Tel est le dilemme que les progrès de la science posent à nos consciences. Hésiterons-nous longtemps encore à faire un choix? Nous n'avons jamais caché qu'en optant pour l'abondance et la paix, une tâche urgente s'imposait, celle de transformer notre économie dont les structures ont été édifiées et ne peuvent fonctionner que dans la rareté de tous les biens que consomment les hommes. Certes, cette forme d'économie a permis à une partie de la population d'élever son niveau de vie, soit. Mais quel revers de la médaille! En France, par exemple, des hommes, des femmes, des enfants par centaines de mille sont mal nourris, mal logés, des vieillards sont dans la misère la plus noire, des jeunes, toujours plus nombreux, sont complètement désorientés, la société se désintéressant de leur sort sous prétexte qu'elle n'a plus besoin de leur travail. Pour la même raison, de nombreux travailleurs sont licenciés et cherchent vainement à se reclasser. Et nous abrégeons. Estimez-vous que nos bidonvilles et les infectes taudis où s'entassent des familles nombreuses sont dignes du XXe siècle, que nous prétendons être celui des Lumières? À cet égard, ils ne rappellent que le Moyen-Âge, avec toujours plus d'agressions nocturnes. Or, vous savez que dans le même temps, l'État assainit tous les marchés pour éviter l'effondrement des prix. Il retire du commerce toutes les denrées prétendues excédentaires, blé, viande, poulet, légumes, fruits, vins, lait, beurre, charbon, etc., etc. Bref, tout ce qu'on ne réussit plus à vendre avec profit. Parce qu'il y en a trop. De sorte que nous achetons collectivement, pour le stocker et même souvent pour le détruire, tout ce que nous ne pouvons acheter individuellement pour le consommer. Quelque besoin que nous en ayons. N'est-ce pas à faire rougir un singe, car il n'a jamais détruit les noix de coco dont un autre singe a besoin? Or, ces criminels agissements sont ceux de toutes les nations bien industrialisées. Le gouvernement des États-Unis, par exemple, indemnise même les agriculteurs qui consentent à remettre en friche une partie de leurs terres. Nous obéissons tous à ces économistes attardés pour qui l'abondance n'est qu'une fâcheuse surproduction. À notre système économique actuel, il convient donc de substituer l'économie distributive de l'abondance dont nous avons déjà dit quelques mots. Nous rappelons qu'elle est fondée sur un principe indiscutable, à savoir que notre potentiel actuel d'abondance n'est pas uniquement l'œuvre de notre génération, mais bien celle des innombrables travailleurs et chercheurs des siècles passés, tacitement associés pour l'amélioration continue de la condition humaine. Nous sommes donc les héritiers d'un gigantesque patrimoine collectif dont notre part d'usufruit doit se matérialiser sous forme d'un revenu social servi par l'État à tous les citoyens au cours de toute leur existence. En contrepartie, ils accompliront par roulement un service social comme aujourd'hui on accomplit le service militaire, afin de fournir le peu de travail nécessaire à la pérennité de la production des richesses et des services publics qu'elle réclame. Alors, s'ouvrira une nouvelle civilisation qu'on baptise déjà celle des loisirs. Mais attention, loisirs et fainéantise ne sont pas synonymes, comme beaucoup de nos contemporains l'imaginent à tort. Ils oublient que la fonction principale de l'homme n'est pas de produire les biens qu'il a besoin de consommer. Il en a de plus noble, de plus élevé, de plus conforme à sa nature. Si la fonction de produire des richesses matérielles l'absorbe toute la vie, il mène l'existence des esclaves d'autrefois. Au contraire, moins cette fonction prendra de son temps, plus il pourra en consacrer à l'épanouissement de sa personnalité. Mais dissipons tout équivoque. Il ne s'agit pas de déshonorer le travail, mais de distinguer entre le travail obligatoire, celui qui assure notre existence, et le travail volontaire, qui est le moyen le plus agréable d'occuper ses loisirs. Le premier ne fut jamais qu'un châtiment. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, lit-on dans la Genèse. Et pendant longtemps, ce furent les vaincus d'une guerre que l'on condamnait à travailler pour les vainqueurs. Aujourd'hui encore, on condamne aux travaux forcés, même à perpétuité, ceux qui nuisent à la société. Au contraire, le travail volontaire fut l'apanage des sages de la Grèce, dont nous admirons encore les œuvres. Bien loin de déshonorer le travail, nous l'ennoblissons. Réfléchissez à la civilisation nouvelle que l'économie de l'abondance fera naître. Nous jouirons tous de cette liberté si vantée, dont la plus précieuse était celle de l'esprit. Or, n'ont jamais été libres que ceux dont l'existence était assurée. Enfin, en élevant sa dignité, l'homme deviendra meilleur. La disparition de la misère qui engendrait la haine assurera la paix sociale. Alors, quelle explosion magnifique de talent et de génie! La science nous donne droit au bonheur, à nous de la conquérir et d'en faire une véritable religion. Un de ses premiers bienfaits sera de nous permettre de quitter ce monde sans angoisse sur le sort de ceux que nous laissons. Mesdames et messieurs, nous vous avons dit la vérité, toute la vérité. Il vous appartient de la répandre autour de vous afin de créer un courant d'opinion en faveur d'une économie distributive, celle des besoins. Elle peut s'instaurer dans l'ordre, donc sans violence, puisque tout ce qu'elle réclame est déjà à pied d'œuvre. Jamais, nous le répétons, les hommes ne furent capables de créer autant de richesses qu'aujourd'hui. L'effort que nous vous demandons nous évitera ainsi de sombrer dans une catastrophe absurde. Le capitalisme a fait son temps. Déjà, son déclin nous a valu 2 guerres mondiales. Il ne peut poursuivre sa route qu'en préparant fiévreusement une 3e qui sera cette fois nucléaire. Alors, répondez-nous. Faute de savoir vivre dans l'abondance, allons-nous donc tous mourir ?